Radio en direct depuis la honte de Lizard. À vous, messieurs.
Un tour de France, un gros joint, quand on sent l'air au travers du maillot, en roue libre et bien sûr sans les freins, car la roue tourne, car la roue tourne, retourne là. Et pourquoi pas faire le tour de la terre, il est quelle heure au Guatemala, j'ai jamais pris de fusée horaire.
Et bienvenue en direct d'un Radio Vélo sur C'est ta radio, émission exceptionnelle depuis la Ronde de l'Isard. On se trouve eh bien au gîte, au complexe Les Oustalous, du côté des cabanes. C'est au pied du plateau de Beille, une émission exceptionnelle pendant une heure où nous allons eh bien revenir sur ces deux premières étapes de la Ronde de l'Isard que vous avez pu suivre eh bien avec nos réseaux sociaux, le Facebook, le Twitter Radio Vélo. Julien, bienvenue.
Oui, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à notre émission spéciale Ronde de l'Isard. Voilà, on aura un petit peu de monde ce soir, on espère. Ça a été un petit peu difficile de faire cette émission, on remercie bien sûr Laurent. On est en plein dans le réflecteur parce que c'est à ce endroit où on avait de la connexion. Donc voilà, on va travailler pour avoir des coureurs. On a les formations de Rouen qui sont là présentes, la formation du top 16, il y a la formation de l'Équateur. Voilà, on va pouvoir revenir sur ces deux étapes qui sont passées et on viendra bien sûr sur les étapes de demain après demain, Nicolas.
Oui, on va revenir eh bien en long en large. On va également un petit peu parler de ce qu'ont pu nous dire les protagonistes, les coureurs, les directeurs sportifs après ces deux premiers jours de course. Bien évidemment, la Ronde de l'Isard se poursuit jusqu'à dimanche du côté de l'Ariège principalement, vu que c'est là que nous nous trouvons du côté des cabanes. N'hésitez pas à venir nous rejoindre ou à commenter sur le Twitter @radiovelo31. Aubin nous lit tous les commentaires. Bienvenue Aubin, bien évidemment, pour le direct. Il est très très sérieux là avec c'est un petit peu notre homme de terrain maintenant, Aubin, dans la team Radio Vélo, avec bien sûr ces petits articles qu'on peut retrouver sur les jeunes journalistes. L'actualité toute chaude, peut-être dire où on en est, Julien, dans cette Ronde de l'Isard. Déjà deux jours, mais deux déjà, arrivées au sommet.
Ouais, déjà deux étapes déjà très difficiles par ces deux arrivées au sommet. Donc déjà l'étape d'hier qui partait donc de Mirepoix dans l'Ariège avec une arrivée à Goulier-Neige. Ça fait quelques fois que la Ronde de l'Isard emprunte cette fameuse montée de Goulier-Neige, une montée qui est très courte, très sèche, assez pentue par moment. Et aujourd'hui donc un départ de Salis du Salat avec une petite nouvelle ascension qu'on connaissait pas, le pas de Soulombri, avec des forts pourcentages aussi, qui est pas très très long mais des forts pourcentages, une descente très rapide, très étroite, il y a que la place que pour une voiture, où j'ai vu un coureur de Rouen venir un petit peu frotter la voiture de Vita d'assistance, et après donc cette fameuse arrivée du plateau de Baie où il y a 17-18 km à peu près, à quelque chose près, d'ascension très difficile, empruntée plusieurs fois par le Tour de France et déjà auparavant par la Ronde de l'Isard. Donc déjà deux étapes difficiles, deux étapes de montagne, alors pas comme on aura dimanche, Nicolas, puisque dimanche c'est la fameuse étape mythique des cols, mais déjà on peut déjà voir que certains coureurs sont déjà en forme et sont bien présents. Ce qui s'est passé hier, on a eu le même scénario aujourd'hui, des coureurs très en forme. Voilà, donc on attend demain avec impatience l'étape de dimanche. On est moitié Ronde de l'Isard. Le classement n'est pas fait puisque on va dire qu'il y a à peine 10-15 secondes d'écart entre le premier et le deuxième. Bon, il n'y a rien qui est fait pour l'instant, Nicolas. Je pense que demain il faudra faire très attention. Donc pour un petit rappel, donc victoire hier de Simone Pétilly de la formation Uniero, de mémoire.
Oui,
deuxième Lorenz Plus. Qui finit hier, voilà, donc troisième place hier pour. Je ne suis pas Nicolas, tu n'y es pas.
Et donc, la victoire de Pétilly hier qui a pris le maillot de leader, l'italienne. C'est vrai que c'est une équipe un petit peu de formation, comme beaucoup d'équipes sur cette Ronde de l'Isard. Et donc, eh bien, il a dû défendre aujourd'hui son maillot de leader avec notamment les assauts d'un Belge qui est peut-être le plus à l'aise dans cette Ronde de l'Isard.
Ouais, n'oublions pas, je disais hier, la troisième place de Guillaume Martin aussi qui a bien marché. Aujourd'hui, les deux et des tubes étaient devant. C'est vrai qu'après, une fois que Jérémy Maison est parti à 11 km de l'arrivée, c'est sûr qu'après derrière fallait contrôler pour Guillaume Martin. Après ils se sont livrés une bagarre quand même des plus dures, parce que de plus a été victime d'une crevaison au mauvais moment dans cette montée du plateau de Beille. Il est revenu auprès de quelques efforts quand même, parce que devant sa montée sacrément, hein, c'était un bon train qui se faisait, et ça sautait dans ce groupe de maillots jaunes, ça sautait par l'arrière. Il a réussi à rentrer auprès d'un bel effort qui peut-être cet effort-là l'a empêché peut-être d'aller vers la fin de cette montée, d'aller grappiller quelques secondes qui lui manquent pour revêtir ce maillot de leader. C'est peut-être possible. Après ils sont employés quand même sacrément dans ce final à 5 km d'arrivée. Ils ont attaqué à tour de bras sans pouvoir arriver à se décramponner l'un de l'autre. Pourtant il y avait attaque, il y avait contre-attaque, et c'était vraiment c'était favorable à l'homme de tête, parce que l'homme de tête avait une trentaine de secondes et il doit arriver avec une minute il arrive avec une minute 0,5 exactement, donc bon voilà, c'était propice pour lui. Mais c'est vrai que voilà, on s'est régalé la course. Après bon, mais derrière elle s'est décantée très rapidement, hein, parce que dans ce plateau de Beille on ne peut pas tricher, c'est une montée qui est très sévère, très exigeante, et quand on n'est pas en forme, ça parle de suite, quoi, hein. Sur une montée comme celle-là, une montée sèche avec des forts pourcentages, quand on n'est pas bien, hop, on saute et on se retrouve derrière.
Ben oui, pas vraiment de surprise aujourd'hui, hein, parce que les favoris ont été au rendez-vous. Un Italien,
Monsieur François-Xavier Valliette, ici à côté, là-bas.
Je vous en prie. Avec Laurence De Plus, le Belge qui avait fait forte impression hier, et Simone Petit, le leader, donc, qui a été le plus fort sur la première étape. C'est vrai que les deux se sont livrés un beau mano à mano, tous les deux avaient une belle équipe. Peut-être qu'aujourd'hui les Belges ont été plus en vue quand même que l'équipe italienne. Il faut dire qu'elle avait beaucoup donné hier, et donc ouais, l'équipe française qui s'est le plus montrée aujourd'hui, cette équipe
qui
sait
qu'on avait lundi soir qui nous disait qu'on pouvait compter sur une équipe du CC Etup très très offensive, et aujourd'hui on le voit dans les quatre premiers deux coureurs de Etup, ils ont fait la course. On s'est vraiment régalé. Donc bon, c'est pas fini, parce que au niveau du classement en général, les écarts sont quand même pas trop conséquents. On retrouve donc Laurence De Plus à 10 secondes. À la troisième place, Jérémy Mazon qui est à 23 secondes. Guillaume Martin à 1,05. Derrière, il y a Lucas Papillon qui a fait une sensation aujourd'hui, qui se retrouve avec un retard de 2,04. Aurélien Paré-Peintre de Chambéry à 2,25. Après, on trouve un coureur des USA un petit peu en retrait par rapport à ce qu'il faisait habituellement, à 3 minutes 17. Un coureur de la formation du leader, donc Tecchio Marco, qui est à 4,18. Notre local, Loïc Bouchereau, qui est à la 9e place du classement général avec un retard de 4 minutes 35. Et enfin, à la 10e place du classement général, donc Steph Kras de la Lotto Soudal à 4 minutes 42. Voilà, donc on est déjà au-delà de 5 minutes déjà à la 10e place. Donc, voilà. Oui, Nicolas, je sais que tu as du monde, Nicolas.
On a fait le résumé de cette seconde étape, et nous avons un invité ici depuis le complexe des Oustalous dans l'Ariège. Nous sommes aux cabanes. Et bien, nous partageons ce complexe le gîte, on va dire, avec plusieurs équipes, dont l'Océane Top 16 qui est dirigée sur cette ronde de l'Isard par Michel Beauchot.
On avait eu Thibaut Nuns il y a quelques temps déjà, juste après
sa victoire au Grand Prix de Montastruc, où nous avions couvert la course. Michel, n'hésitez pas à vous saisir du micro, et merci d'être avec nous en direct dans Radio Vélo. Bonsoir. Tout d'abord, on est très heureux de pouvoir partager quelques minutes avec vous. On voit que les garçons sont à table. Comment ça se passe pour une équipe comme l'Océane Top 16 de venir sur la Ronde de l'Isard? C'est toute une organisation, on imagine.
Oui, c'est toute une organisation, mais moi, ce que je regrette au niveau... j'ai des regrets pour l'organisateur, c'est que nos instances fédérales, en face d'une épreuve comme la Ronde de l'Isard, mettent une épreuve de Coupe de France. Je trouve que c'est dommage de mettre ces épreuves-là les unes en face des autres. Surtout que la Ronde de l'Isard, je crois que c'est plus de 30e édition. Donc voilà, je trouve que c'est triste. Alors effectivement, c'est un peu compliqué quelquefois de faire deux équipes compétitives, oui, la 38e édition. Donc voilà, ça fait partie des choses que je comprends pas, même si c'est un peu en dehors du sport. Voilà, donc malgré tout, on tenait à honorer la présence de l'équipe de division nationale. Je préciserai que dans l'équipe, j'ai deux coureurs qui sortent de junior. Ils sont là pour apprendre. et que c'est difficile de faire une équipe compétitive pour une Coupe de France, une équipe compétitive pour la Ronde de l'Isard, et que malgré ça, quand même, ben pour le comportement des gamins, ils sont là pour apprendre. Voilà, je suis pas mécontent de la performance, même si on peut toujours, tant qu'on gagne pas, on peut toujours espérer mieux. Mais je répète, on est là pour apprendre, on est 10e par équipe sur 18, je sais pas combien on finira, mais bon, voilà, c'est un comportement, il y a une éthique à respecter, et puis il y a surtout un comportement qui doit être irréprochable vis-à-vis de tous les bénévoles qui permettent de faire des organisations de cette envergure-là.
Par rapport à ce que vient de dire Michel, Julien.
Non, est-ce qu'il y avait des coureurs qui, malgré tout, venaient ici un petit peu avec un peu d'ambition, sachant que c'est un parcours qui est très montagneux, où on n'a pas l'habitude de courir. C'est vrai qu'on a plus l'habitude de courir sur des courses avec des bosses, mais qui ne sont pas des arrivées comme ça, de 15 à 17 km d'arrivée, des cols. Il y avait des coureurs que vous saviez déjà, certains talents quand même, ou...
Quand on va faire 20e d'une étape de montagne alors qu'on n'a pas l'habitude d'en faire quand on arrive à Belle, je pense que on peut pas satisfaire de ça, ça
bien
c'est,
sûr,
c'est
bien
clair.
Sûr, bien sûr.
Mais pour moi c'est pas une déception. Voilà, quand des garçons ont 20 ans, 19 ans, ils sont là pour apprendre, ils découvrent, c'est aussi notre rôle de formateur. Et ça j'y tiens beaucoup. Parce que, en tant que président de la structure, président du comité départemental, on a aussi un SDEF. Et ici, il y a 3 garçons qui sortent de ce SDEF. Et ça, c'est une fierté. Voilà. Après, les résultats, ce sont des êtres humains. Ils sont là pour apprendre. Et puis, j'espère que l'année prochaine, on fera encore mieux.
Donc, c'est Mathias qui prend la 21e place, Mathias Le Tournier.
Oui, et puis qui est 20e au général, je crois, ou 19e, je sais pas. Voilà.
Donc, vous étiez venu, j'imagine...
Avec, il est 20e au classement général à 9 minutes 53, oui, ce qui est honorable.
Non, mais je répète. En toute objectivité, moi, je ne suis pas déçu des gamins. Eux sont déçus de leur place, et ça, c'est normal. Parce que s'ils n'étaient pas déçus, ça veut dire qu'ils se satisfaient de peu de choses. Donc, ça, c'est pour moi, c'est très positif. Mais ça fait partie de la complémentarité de la formation et c'est des épreuves spécifiques et je me fais un plaisir de venir sur cette épreuve là
Justement la Ronde de l'Isard, est-ce que vous êtes un habitué ou pas de
non.
cette épreuve? Non,
non, on est déjà venu, ouais. Mais moi non, c'est la première fois, je découvre, même si ça fait 25 ans que j'encadre, c'est pas une découverte pour moi, mais l'épreuve si.
D'accord. Et après, donc le principe, on imagine que vous adhérez forcément en tant que formateur à ce rendez-vous annuel qui, quand on regarde le palmarès, forme les coureurs.
Vous savez,
sont au top niveau.
On a été gagné une étape à l'Essor Breton. On nous attendait pas avec Vadim Delhomme. On verra au classement final à la fin de l'année. Mais j'ai fait le choix, c'était volontaire, de renouveler une partie de l'effectif. J'ai fait le choix de la jeunesse. En disant à nos partenaires que on aurait peut-être, et je dis bien peut-être, un peu moins de résultats, mais que je voulais continuer dans ce système de formation, de garder des gamins qu'on a l'habitude de travailler avec une éthique irréprochable, dans l'esprit, dans la combativité, dans tout ce que comporte le mot éthique d'ailleurs, j'en dirai pas davantage, tout le monde doit comprendre ce que ça veut dire, c'est tout.
Julien, est-ce que tu as une autre question peut-être?
Non, mais je rejoins son petit coup de gueule aussi par rapport à, on en parlait tout à l'heure à l'arrivée aussi, le fait d'avoir mis une épreuve le lendemain d'une épreuve comme la Ronde de l'Isard, qui est une épreuve pour moi qui est immanquable, où on doit pouvoir retrouver les meilleures équipes françaises. C'est dommage pour l'organisateur parce que mettre une course sur pied comme ça, c'est vraiment pas facile, quoi. Hein. C'est très très compliqué. C'est comme ça, mais c'est moi je trouve ça très très dommage.
Vous y rajoutez. Que nos instances fédérales se posent la question de pourquoi savoir il y a 11 équipes étrangères et 8 équipes françaises. Ça c'est les bonnes questions. Alors moi je vais pas me mettre à la place de l'organisateur. Il a beaucoup de mérite, mais j'aimerais bien en connaître la raison. C'est parce que s'il n'y a que 8 équipes françaises, c'est grave. S'il n'y a que 8 équipes françaises parce qu'il y a une autre compétition de très haut niveau, il faut que quelqu'un prenne des décisions et les bonnes.
On sent qu'il y a un gros malaise quand même au niveau de ce calendrier parce qu'on voit beaucoup de courses qui disparaissent, des des courses qui se cumulent, qui se chevauchent.
Justement, sur le Twitter, Julien, c'est un petit peu ce qu'on lit. Max qui nous envoie un message.
On a Max Massat qui nous dit, bah, c'est juste ce qu'il a dit en parlant de Michel Bouchot au niveau du calendrier et que des résultats.
Voilà, voilà, c'est vrai que le calendrier a été d'ailleurs remis en cause par quelqu'un sur le podium encore tout à l'heure. Ouais.
Mais de toute façon, si on voulait continuer, et sans faire grief, hein, simplement en parlant des faits, le fait de venir dire que quelqu'un puisse organiser une Coupe de France qui coûte horriblement cher, on ne se soucie pas si en face il y a des épreuves qui ont 40 ans. Et dans les 2 ans qui suivent, on a perdu les 2 épreuves. L'épreuve de 40 ans qui a disparu parce qu'il n'y avait pas assez de compétiteurs, et l'épreuve de la Coupe de France parce qu'elle n'est que passagère. Il faut se poser les bonnes questions.
L'avenir du cyclisme français en dépend sûrement. En tout cas, on voit pas mal de jeunes coureurs à l'œuvre sur cette ronde de l'Isard. Parmi les Français, bon, il y en a deux du CC Etup qui font des belles performances sur ces 2 premières étapes notamment. Vous les connaissez sûrement. Et puis il y a aussi un Italien qui a pris le maillot de leader hier, et un Belge qui est pas loin sur ces 2 premières étapes. Ça semble être le quatuor qui est un petit peu au-dessus du lot sur cette ronde de l'Isard. Est-ce que vous partagez ce sentiment?
Oh, je ne m'aventurerai pas sur ce genre de pronostic ou de diagnostic, mais je dirais qu'en ce qui concerne les équipes françaises, et Tube, ce sont des copains. Je crois qu'on est tous, plus ou moins. On peut être adversaire, mais pas ennemi. Et l'adversité peut se faire aussi dans l'amitié. Voilà, c'est ma conception. Je suis peut-être naïf, même avec mes tempes blanches. Mais bon, je le revendique. Voilà, c'est comme ça. Donc si c'est Tube qui. Alors, je vais être un peu chauvin.
Oui.
Si c'est un Français qui gagne, que ce soit n'importe lequel, tant mieux.
Oui.
Ceci dit, si c'est un Italien qui mérite de gagner à la pédale, oui, eh bien, il n'y a pas de souci, j'irai lui serrer la main.
Jérémy Maison, donc le vainqueur du jour, qui a seulement donc 23 secondes au général, et Guillaume Martin à 1,05. C'est vrai que ça promet en tout cas de belles étapes pour
Il n'y a rien de fait.
Samedi et dimanche,
il n'y a rien de fait.
Il y a 2 étapes très compliquées, parce que demain, même si elle n'est pas dure par sa difficulté, il y aura sûrement du vent de côté, très vallonné, donc ça peut être propice à des bordures, à des échappées, et on peut très bien le perdre.
Moi, je répondrais que ce sont les coureurs qui rendent une compétition difficile. S'il y a la course, si le profil s'y prête, ça sera encore plus difficile. Mais si les coureurs n'ont pas envie de faire la course, sans pas mettre ce qu'on veut, ben, ça ne va pas. Mais là, j'ai pas de doute. Les compétiteurs font la course. Et puis oui, ben, j'espère que la course sera difficile.
Course difficile, un mot donc sur ces 2 dernières étapes, Haute-Rive jusqu'à Boulogne-sur-Gesse demain. C'est une étape qui sur le profil peut paraître plutôt plate, mais ça devrait être très très agité. Et puis il y a l'étape des 3 cols dimanche. Il peut y avoir des coups à faire, on imagine.
Moi, je reste convaincu que le coup n'est pas fait. S'il est fait, tant mieux. Et merci aux gamins qui sont leaders et qui pourront défendre leur place. Ça voudrait dire que ce sont des costauds. Mais je reste convaincu que le coup n'est pas fait ou qu'il y aurait une belle bagarre.
On a vu aujourd'hui une formation italienne bien manœuvrée quand même, avec cette échappée qui est toujours restée à la minute, minute 15. Ils ont toujours manœuvré et bien maîtrisé un peu cet écart-là pour arriver au pied de Baye. Tout était groupé, en fait, ça s'est fait simplement, quoi.
Oui, même si ce sont des équipes jeunes, on peut parler d'expérience, parce qu'elles ont certainement plus d'expérience que la mienne, par exemple, hein, parce que je pense qu'il y a peut-être des courses plus fréquemment du niveau de l'Isard chez eux ou un truc comme ça, mais oui, puis ça s'appelle aussi la professionnalisation du cyclisme, quoi, hein, le rôle des entraîneurs, des éducateurs, préparer tout ça, voilà, c'est notre rôle aussi de savoir gérer. Et puis je mettrai un autre petit pavé, ça veut dire aussi que même sans les oreillettes, les coureurs savent bien se comporter.
Oui, justement, j'allais justement y venir, parce que d'avoir bien manœuvré justement avec pas d'informations par oreillette, si ce n'est que par l'ardoise, donc arriver à jauger, toujours à rester avec un écart qui s'est stabilisé entre 55 secondes, 50 secondes, ça repasse à 1 minute, 1 minute 15. Encore une fois, les coureurs ont bien su prendre la course à leurs mains et la gérer au millimètre pour que voilà, l'échappée qui était devant meurt à petit feu, et puis on ramasse les coureurs là, dans ce fameux pas de Solombri qui était avec des pourcentages assez élevés qu'on connaissait pas, mais ils ont bien manœuvré. Ouais.
Ben, ça promet en tout cas 2 belles journées. On va vous remercier, Michel, parce que peut-être vous voulez rejoindre les coureurs. Commencez là une soirée là sur la ronde de l'Isard. On est vendredi soir, il reste 2 jours de course. C'est quoi le programme? 20h, c'était repas pour les garçons, c'est ça?
Non, mais on a la chance d'être hébergé dans un endroit où le responsable de l'hébergement est à l'écoute. Demain soir, s'il servait le repas à 8h, on ne serait pas prêt. Donc demain soir, je pense qu'il servira à 21h. Ce soir, c'est 20h. Voilà, c'est sympathique, c'est bien. Et je remercie tout le monde.
Impeccable. Et après, donc, les garçons ont une soirée libre. Comment ça se passe? Ils doivent
se rendre dans un massage? Non. Là, on est dans une compétition de haut niveau. Du coup, ça mérite le respect de tous ceux qui l'occupent. Après souper, c'est dans les chambres au lit.
D'accord. Et
non.
Non, c'est pour savoir un peu le timing pour les auditeurs.
Il n'y a pas de dispersement. Il n'y en a pas chez moi.
Bon, mais ça va.
Il
n'y
en aura pas.
Merci, Michel. C'était juste pour pouvoir présenter à nos auditeurs.
Merci et bon appétit.
Comment fonctionne une soirée? Merci, Michel, en tout cas, d'être venu dans Radio Vélo. On aime le franc-parler, merci. Julien, c'est l'heure de la coupure.
Eh bien, oui, écoute, on a fait une première bonne partie d'émission, même une émission qui se sont bien passées. Voilà, on est revenu sur cette ronde de Lizard qui est passionnante, qui le restera pas encore pendant ces deux jours-là. Donc voilà, surtout, reste avec nous. On se quitte le temps de quelques instants et on se retrouve juste après.
Dans deux minutes.
C'est ta radio.
Pop.
Rock.
Sport.
Mon cher Nicolas, au lieu de passer du temps à taper sur ton clavier, je sais pas ce que tu fais là.
Faut
reprendre.
Les réseaux sociaux nous auront. Heureusement, on a notre ami Aubin.
Qui tu as pêché dans la salle encore ici là.
Eh bien là, nous étions donc il y a quelques instants avec le directeur sportif de l'Océane Top 16. C'était Michel Bouchot qui était avec nous. Et là, eh bien nous allons mettre à l'honneur une autre équipe de cette ronde de Lizard, le CR4C de Rouen, autre grand club formateur avec Vincent Garin qui est avec nous. Merci d'être avec nous, Vincent.
Bonjour.
Bonsoir et bienvenue dans Radio Vélo, directeur sportif donc sur cette ronde de Lizard du CR4C de Rouen. Les coureurs sont actuellement à table, un petit peu dissipés, on imagine. C'est pas tous les jours que vous cassez la croûte, j'imagine, avec une émission de radio à côté. Mais quel est le bilan après ces deux jours du côté du CR4C?
Pour nous, le bilan est plutôt bon puisque on a réalisé déjà deux top 10 sur les deux premières étapes. Avec Lucas Papillon qui s'est bien révélé en montagne pour sa première ronde de Lizard. C'est pour certains une surprise. Nous on l'a vu progresser là depuis quelques années. Il nous a rejoint cet hiver. Et pour sa troisième année espoir, justement, c'est l'occasion pour lui de découvrir la ronde de Lizard. Et finir 8e et 5e aujourd'hui, c'est une grande satisfaction.
Grande satisfaction, d'autant que les garçons étaient animateurs d'étape, si je ne me trompe pas.
Oui, voilà, on vient sur cette longue ronde de Lizard, c'est aussi pour l'animer. Et puis, on aime beaucoup ce genre d'épreuve espoir, puisque c'est très formateur pour nos coureurs. Et on voit qu'on peut faire beaucoup de choses sur tout le parcours, avec des bordures, comme hier après-midi. Des échappées au long cours, des tempos comme on fait les Italiens aujourd'hui, et puis des arrivées au sommet.
Des arrivées au sommet, donc avec hier Goulier-Neige, aujourd'hui le plateau de Baye. Est-ce que les garçons connaissaient ce genre de col?
Certains connaissaient Goulier-Neige, puisqu'on l'a monté déjà deux fois les deux dernières années. Le plateau de Baye, non, c'était une découverte, et c'est une sacrée montée quand même. Elle est assez dure et surtout elle est assez longue.
Elle est assez longue et assez mythique. On imagine que ceux qui ont eu envie de faire du vélo, parce qu'ils voyaient à la télé peut-être les cols du Tour de France, ils sont en pleine dent.
Ah bah c'est ça, ouais. Là ils vivent dans le Tour de France et puis je crois qu'ils doivent passer cet été le Tour de France, justement.
Oui, il y aura une étape un petit peu similaire sur le Tour 2015, parce que la ronde de Lizard sert à dénicher les futurs talents sur le vélo, mais aussi les parcours. Et bon, là pour le coup, ils ne l'ont pas déniché cette année, mais le plateau de Baye, la ronde de Lizard a été aussi l'une des premières courses à la mettre à l'honneur. Donc justement, on regardait aussi du côté du classement général. Lucas Papillon se retrouve cinquième ce soir à un peu plus de 2 minutes. Il est derrière en fait le quatuor de coureurs qui sont un petit peu au-dessus après ces deux jours, je crois. Est-ce que je me trompe?
Non, c'est vrai.
Il n'est pas loin quand même de même.
Il n'est pas très loin, mais c'est vrai que il y a un quatuor là déjà avec l'Italien Petit, le Belge et puis Guillaume Martin. Ils sont vraiment très forts les trois. Jérémy Maison a perdu un peu de temps hier, mais aujourd'hui il a montré qu'il savait très très fort en montée. Il a repris du temps, puis surtout il a gagné une belle étape aujourd'hui. Donc il y a 4 coureurs qui sont vraiment très forts sur cette ronde de Lizard, mais faut pas oublier quand même que il y a encore 2 jours et tout peut se passer. Il peut y avoir des défaillances et au contraire quelques coureurs qui se révèlent un peu.
Ben justement, Lucas Papillon a donc gagné, comme me le faisait remarquer François-Xavier, 3 places entre hier et aujourd'hui. C'est prometteur. Est-ce qu'il va se fixer un objectif? Le top 5 déjà à défendre, ça sera une rude tâche?
Ben, l'objectif, ça serait rester dans le top 5, oui. Puisqu'on a dit que les 4 premiers étaient quand même forts. Personne n'est à l'abri d'une défaillance, donc si on arrive à gagner quelques places, ça sera tant mieux. Ouais.
On se refuse rien, d'autant plus que du côté des tubes, eh bien, ils sont deux garçons dans le top 4, donc peut-être que l'un va devoir un peu bosser pour l'autre, ça reste à voir en tout cas. La ronde de Lézard est encore longue.
La ronde de Lézard est encore longue et demain il y a une étape piège. Et dont il faudra se méfier et tout peut se passer déjà.
Ça peut attaquer de tous les côtés. Mais justement, la ronde de l'Isard et puis toutes ces épreuves, on imagine que vous suivez ça à longueur d'année, Vincent. Est-ce que vous connaissez, les Français, j'imagine que oui, mais est-ce que vous connaissez eh bien, Simone Pettini, ce leader italien? J'ai demandé à quelques coureurs, c'est vrai, depuis hier, et tous ne le connaissent pas.
Bah, très franchement, je le connaissais pas. Pourtant, je me renseigne pas mal sur les étrangers avant de venir sur la ronde de l'Isard. Je regarde les palmarès des Américains, des Équatoriens et des Belges aussi. Et je connaissais tout le monde dans le top 20 hier, sauf les Italiens que j'avais du mal à connaître.
Demain, moi, je reviens sur l'étape de demain. Une étape de demain qu'on peut penser de transition, mais qui sera sûrement avec du vent de côté, avec un parcours très vallonné, où on peut voir un petit peu des formations qui sont un petit peu passées à côté, peut-être durcir la course et peut-être amener un coureur bien placé aux avant-postes.
Ouais, il y a des stratégies à mettre en place. Le vent, il y a un peu de vent depuis le début de la ronde de l'Isard, donc c'est un élément important. Et puis surtout, c'est un parcours qui ne paraît pas sur le profil, mais qui est très, très casse-pattes et très dur. Et effectivement, on peut essayer de mettre en place des manœuvres pour renverser la tendance et mettre en difficulté les Italiens, qui ont une équipe très, très forte. Mais je pense qu'il faut se battre et rien n'est perdu. Justement, on peut peut-être les mettre en difficulté, ces Italiens.
En tout cas, ça promet beaucoup de choses pour notamment du côté des Français. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, votre coureur qui est cinquième du général était dans l'échappée. Est-ce que ça va changer des façons de courir cette cinquième place?
Clairement, voilà, son rôle sera établi, donc ça sera notre coureur protégé. Mais à côté de ça, on aime bien mettre des coureurs dans les échappées. Ça nous soulage déjà du poids de la course et puis au contraire ça peut parfois servir de point d'appui. Le coureur qui était présent aujourd'hui l'a échappé a servi au sommet de la première bosse, l'a replacé Lucas justement juste avant la descente très, très dangereuse et il n'a pas fait un travail énorme, mais c'est très très important malgré tout, des petits détails comme ça.
On va pas vous retenir trop longtemps, Vincent, parce que on imagine
le repas sera froid après.
Le repas sera froid et puis peut-être comment ça se passe une soirée justement du côté du CR4 Cérouan. On a eu il y a quelques secondes votre homologue de l'Océan Top 16, Michel Bouchot, qui disait au moins j'ai plus au lit. Hein. Qu'est-ce que c'est du côté de CR4?
Ouais, non, en général, on est bien fatigué après le repas. Parfois, on sort boire une bière, mais là, je crois que ce soir, on va aller se coucher, on va pas trop traîner.
Ouais, c'est vrai que les journées sont longues quand même avec ces étapes. Les étapes sont un petit peu moins longues que peut-être par le passé où on avait toujours des longueurs de 160-170 km. Mais bon, ça suffit par la dureté déjà de l'épreuve. Alors non, moi je sais que, enfin, je voulais revenir un petit peu sur le club du CR4C. Chaque année, ils viennent participer à la ronde de l'Isard avec des ambitions toujours assez importantes.
Bah, ça fait, je sais même pas combien de temps depuis combien de temps on participe à la ronde de l'Isard, mais ça fait quand même un paquet d'années. Pour ma part, c'est la quatrième fois que je viens. Et à chaque fois, on essaye d'avoir quelques ambitions. Malheureusement, on n'a jamais gagné d'étape ni de classement général, mais j'aimerais bien que ça vienne. Pourquoi pas de cette année?
Ça vient du côté de cette année, du côté du CR4C en tout cas. Satisfaction en ce moment, la saison se passe comme il faut?
On a eu un bon début de saison, ensuite on a eu un coup de mou quand même à l'occasion des deuxième et troisième manches de Coupe de France qui nous a mis un petit peu dans le dur. Et puis là ça revient bien, on a fait troisième du classement général du Rhône-Alpes-Isère Tour, une épreuve très très relevée en classe 2. Et puis pour l'instant cette ronde de l'Isard aussi se passe très bien, donc là on redresse bien la barre, donc c'est sympa. Ouais.
Ben merci en tout cas d'être passé. C'est aussi sympa dans Radio Vélo, le direct jusqu'à 21h avec un petit peu toutes les équipes qui se succèdent. Merci Vincent Garin.
Eh bien merci, c'était avec plaisir. Merci.
Et à bientôt dans Radio Vélo. Bon appétit.
Merci.
On continue donc cette émission exceptionnelle depuis la Ronde de l'Isard. On remercie le complexe des Oustalous. Ça se situe aux cabanes. Si vous avez besoin d'ailleurs d'aller faire un petit séjour vélo, monter le plateau de Baye avec les copains, ou sinon tout simplement l'hiver à la montagne, c'est vraiment au pied du plateau de Baye, c'est impeccable. On est très bien accueillis, on y mange bien, il y a la wifi, il y a tout ce qu'il faut. C'est vrai que c'est essentiel pour nous qui faisons de la web radio. On accueille un autre coureur, Aubin, qui est notre assistant royal, Aubin, sur cette Ronde de l'Isard. On le remercie. Vous réagissez sur les réseaux sociaux @radiovelo31, sur le Facebook Radio Vélo. Aubin, ouais, si.
Hey, je te mène à l'ambiance là.
Un peu de musique, oui, Aubin.
Pourquoi espagnol ?
Qui est avec nous ?
On est en direct le 19e de l'étape du jour et 20e hier. De la fondation Euskadi, c'est Oscar González del Campo. Buenos días.
Bonjour. Non, on dit buenas noches. Ya son la noche. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ouais, on va voir François-Xavier Valente qui va faire le traducteur à côté.
Oui, pareil.
Ou Julien.
Julien, je te laisse l'accueillir et puis lui expliquer un petit peu ce qu'on fait quand même.
¿Qué tal?
Bien.
Después de estos dos días de compétition, ¿cómo se ha dado el día hoy?
Bueno, hoy. Hemos intentado entrar lo más adelante posible en la etapa. En la vuelta se ve que hay mucho nivel. El equipo ha venido aquí a aprender y a ver cómo se corre en el extranjero.
No, il dit qu'il est venu et il a vu qu'il y avait beaucoup de neige à monter montagne. Ils sont venus surtout dans pour apprendre un petit peu et voir un petit peu comment on courait avec beaucoup d'étrangers. Nicolas, tu as des questions particulières à poser à notre invité ?
Oui, tout d'abord, tu peux lui dire que pour para presentar un poco su equipo.
Il parle bien espagnol. Hein.
Lui demander d'expliquer un petit peu le contexte, parce que Skatel Euskadi a arrêté, mais ils ont gardé cette équipe de formation. Est-ce qu'il peut un peu nous expliquer où ça en est ?
Ascendendio ? Non ? A ver si puedes explicarnos cómo funciona el grupo donde tú estás.
La Fundación Euskadi este año está saliendo al extranjero para formarnos mejor, aprender de esta categoría también en el extranjero, no solo en España.
Donc la formación Euskadi les font courir beaucoup à l'étranger pour un petit peu apprendre des courses un petit peu étrangères, notamment en France.
Y aprender del ritmo que se va en el extranjero también.
Claro, y de ver las diferencias de ritmo que confía en el extranjero. Justement, ¿es que, par rapport a lo que se hace chez vous en España, hay muchos cambios? Estaba preguntando, ¿es que en España es igual que aquí el nivel, o más fuerte, menos fuerte?
No, en España el nivel es menos fuerte. Ya que desgraciadamente no hay equipos continentales y
donc en España dit que le niveau est inférieur, il y a beaucoup moins d'équipes fortes.
Y la mayoría de equipos son amateurs.
Mais la plupart des équipes sont des équipes amateurs.
Por lo tanto hay menos nivel que aquí.
Y donc pour autant il y a beaucoup moins de niveau que ça. ¿Cómo se ha encontrado la carrera después de salir ayer y hoy?
Bueno, la carrera está siendo bastante dura, con mucho ritmo los dos días.
Donc, j'ai demandé comment il a trouvé ces courses depuis les deux jours. Donc, course très très dure, avec beaucoup de rythme.
Ritmo muy alto.
Donc, un rythme de course très très élevé, apparemment, beaucoup plus élevé que ce qu'ils ont l'habitude de voir chez eux.
Est-ce qu'ils connaissaient la Ronde de l'Isard par rapport. Est-ce qu'ils connaissaient.
Ah oui, est-ce qu'il a dit, oh, la Ronde de l'Isard, ya, antes? ¿Conocía esta carrera o no?
Sí, el año pasado también participé en esta carrera.
Donc il a participé l'an dernier déjà à la Ronde de l'Isard.
Est-ce qu'il suivait avant quand il y avait des grands coureurs d'Espagne ou du Pays Basque?
Et antes, cuando no la hiciste, ¿le seguía la carrera de aquí?
Sí.
¿Sí? Ouais, il l'a suivi aussi. Y también tenía preguntas y me ha olvidado.
Quelle est la mission cette saison de l'équipe? Est-ce qu'il y a des temps forts? On imagine que la Ronde du Lizard est un temps fort. Est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous?
La mission de l'équipe cette année, pour cette année, qu'est-ce que vous avez cette année pour la carrière? Qu'est-ce que vous avez comme objectif?
Objetivo es sacar la máxima experiencia que podamos para en un futuro, si estamos más arriba, tener esa experiencia.
Donc de progresser toujours, d'aller le plus haut possible. Experiencia para acabar profesional.
Sí.
Donc une expérience pour passer au rang professionnel. Eso mismo lo que estamos hablando después, que el equipo profesional se ha parado. ¿Cómo se ha pasado para su formación? Donc je disais, donc, comme la formation a arrêté, comment ça s'est passé pour
oui,
eux?
Oui, est-ce que à terme cette équipe Fondation Euskadi pourrait redevenir professionnelle?
Sí, el equipo profesional desgraciadamente desapareció. Ahora tenemos un equipo de formación para en un futuro poder estar otra vez en el profesionalismo.
Ouais, donc ils ont toujours cette équipe de cette équipe donc cette jeune équipe avec peut-être un futur de repasser professionnel. Est-ce possible que un équipe professionnelle se hace todavía después?
Sí, estamos el equipo está trabajando para él.
D'accord, donc l'équipe est en train de travailler justement pour pouvoir remonter ce projet d'équipe professionnelle.
Es una buena novela, no sé si lo dirlo bien.
mañana
lo remercie, lui faire parler
mañana
de
otra etapa y el domingo también, etapa muy dura, donc je vais parler de l'étape de demain qui va être une étape difficile et dimanche encore plus. Tú y tus compañeros, ¿cómo lo van a hacer?
Mañana la etapa de en la que podremos estar más adelante, ya que es la menos dura.
Donc demain ils essaieront d'être le plus devant possible maintenant qu'il y a moins de dénivelé. Mucho repechón mañana, viento de lado, donc je disais beaucoup de côtes, du vent de côté. Etapa muy particular, porque sí. Mañana se puede perder la Ronde de Lizard mañana.
Sí, mañana tiene menos puertos, pero hay bastantes repechos y
ouais, donc, demain il y a beaucoup moins de côtes, beaucoup plus de côtes difficiles.
Con el aire se va a hacer bastante
duro. Y avec le vent aussi. Y a la etapa del domingo, la etapa del dimanche, con tres puertos, avec trois cols. Bastante.
La etapa del domingo, sí, es bastante dura. Ahí. Sentar lo más adelante posible.
Y ouais, donc son objectif, ça va de rester le plus devant possible pour essayer de garder sa place au classement en général. ¿Te sientes de mejor en mejor en estos días?
Sí. Je
demande si se sent de mieux en mieux pendant ces jours.
Sí, cada día creo que voy a ir a más, a ver el domingo qué tal.
Bueno, yo le remercie, mucha suerte, gracias por estar con nosotros en estos momentos, que aproveche porque se va a enfriar la comida, sí. Donc je le remercie, merci.
Allez,
hasta luego.
Gracias. Et donc c'était Oscar González del Campo de la Fondation Euskadi.
Ouais, donc avec un projet peut-être de continuer cette équipe, ils ont toujours ça dans le coin de l'oreille.
Tu vas pouvoir tweeter donc, ça au Ben, bien
ouais,
sûr, ouais, à nos nombreux tweetos qui sont en train
François,
de...
François, tu savais toi qu'ils avaient un projet toujours de continuer cette équipe professionnelle. Ils nous disaient justement que...
Et on parle en même temps là, c'est pas bien.
Ils nous disaient que leur formation pouvait aussi continuer à être professionnel.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. A priori, dans la logique qui a toujours été celle de Euskatel et de la Fondation Euskadi, ça paraît particulièrement logique qu'ils aient continué à maintenir une équipe formatrice, c'est-à-dire espoir, qui vient sur des courses comme celle-là. On aurait peut-être pu lui demander quel était leur programme à venir sur le reste de la saison, mais je suis persuadé que c'est pas anodin et c'est pas neutre pour la fondation Euskadia d'avoir créé une équipe espoir et de la maintenir en activité. On ne comprendrait pas que ce maillot orange ne revienne pas un jour sur les routes du Tour, que le maillot Euskatel ne revienne pas un jour sur les routes du Tour. C'est un maillot de légende.
C'est vrai que ça fait rêver beaucoup de coureurs, et notamment quand les Basques se déplaçaient sur les grandes courses, c'était assez phénoménal. Non mais c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Donc ils ont apparemment bien confiance ben, voilà, cette reconstruction de cette équipe professionnelle. Donc ben, ça nous fait bien plaisir de retrouver à nouveau ces bases d'un courant professionnel. On a encore du monde ce soir autour de la table, Nicolas.
Exactement.
On a beaucoup, beaucoup de monde. Encore. Encore.
Je laisse Aubin présenter notre futur invité.
Oui, donc maintenant mais c'est le jeune Esteban Villarreal. Jeune équatorien de l'équipe Movistar Équateur qui nous a rejoint autour de la table. Il est 50e au général à 28 minutes 02 du premier penalty. Donc voilà, je vais vous laisser le.
Je vais essayer de travailler un petit peu François parce que François il a des bonnes questions à lui poser là.
Voilà, mais déjà François tu peux lui souhaiter on va lui passer le casque. François tu peux lui souhaiter la bienvenue, hein, souhaiter la bienvenue à notre invité et surtout pour commencer qu'il nous présente un petit peu le projet de cette équipe qui est un petit peu exceptionnelle de par le principe et les motivations.
Ya empezando, gracias por estar con nosotros para venir a hablar de tu equipo. Ese equipo Movistar Team Ecuador, el futuro del equipo, ¿cuál es?
El equipo este es su segundo año. Ahorita los que estamos compitiendo somos tres. Somos nuestro primer año en sub-23. También la experiencia de venir a competir acá en Europa, nuestra primera vez también.
Donc voilà, nous, c'est une équipe qui existe depuis 3 ans. On est 3 à sortir du rang des juniors, à être ici. Et donc on a compris qu'il fallait venir en Europe. C'est pas notre première expérience en Europe, mais on veut justement avoir un calendrier européen. La temporada en Europa os va a coger toda la temporada o tenéis que hacer un poco aquí, un poco a América del Sur?
Ahorita antes de viajar acá a Europa competimos el Panamericano de Ruta que fue en México y bueno ahí viajamos acá y 2 meses y medio vamos a estar aquí. Regresamos a finales de julio.
Voilà, donc avant de venir faire des compétitions en Europe, on a fait déjà les Jeux Panaméricains à Mexico et puis là maintenant on va rester 2 mois ici, 2 mois et demi sur notre camp en Europe qui accessoirement on peut le dire est à Barcelone, on comprendra pourquoi, hein, de langue espagnole. Et donc, au bout de 2 mois et demi, on va repartir faire des courses en Amérique. Pati, la ronde de l'Isard, ahora que ya has visto lo que da, un momento, para traducir, pour toi, la ronde de l'Isard, maintenant que tu es dedans, c'est quoi?
No, esta ha sido una de las carreras más duras de mi vida. Es el nivel extraordinario. Nunca me había tocado lo que tuvimos en la etapa de ayer, que fueron los abanicos. Y bueno, ahí he perdido tiempo. Pero bueno, más que todo he venido a aprender también acá de competir acá en Europa. Y no, la carrera demasiado. Los puertos muy, muy duros. El de hoy fue extrêmement fuera de série.
Alors pour moi c'est relativement clair, hein. Pour moi c'est la course la plus dure que j'ai faite de ma vie.
Un anniversaire alors, pour l'avoir fait.
Alors il y a un anniversaire qui se déroule à côté. On va résumer le discours de notre invité. En fait la course la plus dure hier.
Il y a de l'animation dans le studio ici, dans le grand studio ici. Là,
alors hier j'étais jamais allé jusqu'à voir Los Abanitos, c'est-à-dire les petites étoiles dans les yeux. Pas des étoiles, je sais pas, il nous a pas dit si c'était des étoiles d'admiration ou si c'était des étoiles de l'effort. Et puis aujourd'hui, alors, la montée de Bay, c'était la montée la plus dure que j'ai jamais vue. Pero dices la subida muy dura hoy, pero en Ecuador, ¿hay algunas subidas también de ese nivel?
Sí, sí hay subidas, hay puertos que también son muy largos. De donde yo vivo, el puerto más largo es de 25 kilómetros, pero nunca lo he subido compitiendo, solo entrenando. Entonces es con menos gas.
Oui, donc moi, évidemment, en Équateur, nous aussi, on a des cols longs. Par exemple, là où je réside, moi, j'ai un col de 25 kilomètres, mais que j'ai jamais monté en compétition, et donc avec moins de gaz. Et pour revenir sur la réponse de tout à l'heure, j'avais jamais touché à un niveau aussi relevé de ma vie. Así que, ahora que te parece de este año, ya vais aprendiendo, pero ¿cuándo vienes para ganar? Maintenant que tu es venu pour apprendre cette année, quand est-ce que tu viens pour gagner?
Bueno, pues toca ir cogiendo ritmo ante todo. Por lo que en Ecuador no hay tantas carreras, entonces siempre nos toca las carreras internacionales. Y bueno, yo espero que el siguiente año, si es que regreso por acá, quisiera ganarme alguna etapa.
Alors en Équateur, il n'y a pas trop d'épreuves, donc on est obligé de courir directement à l'international, donc avec des gros niveaux. Mais maintenant que je suis venu pour apprendre et que j'ai commencé à apprendre, pourquoi pas dès l'an prochain venir avec des prétentions de victoire. Nos estás diciendo que en Ecuador no hay muchas carreras, ¿no sería más fácil para vosotros de quedarse más tiempo aquí en Europa? Solo dos meses y medio, ¿no sería más interesante de quedarse 5 meses, 6 meses? ¿Ça serait pas plus intéressant pour vous, puisqu'il n'y a pas trop de courses en Ecuador, de rester 5-6 mois en Europe?
Bueno, un motivo de los que nos regresamos antes es que la visa, o sea, por motivos de la visa, y otro que, o sea, unos compañeros de nosotros ya estuvieron aquí, regresaron a Ecuador para competir en los Juegos Panamericanos, y nosotros a lo que regresemos ellos vuelven a venir acá otra vez. Entonces, más que todo, ahorita nosotros somos los menores del equipo, entonces, o sea, tratan de tenernos en buen nivel, pero no sé si sea que no quieren que nos fundamos o algo de ese tipo.
Voilà, donc nous, notre principal problème, c'est quand même le visa. Ça veut dire qu'on fait une rotation avec les leaders de l'équipe qui sont repartis pour faire les Jeux Panaméricains, qui sont maintenant en Amérique du Sud. On est venu, nous, les remplacer. Et puis, dès qu'on va repartir, ils reviendront. Et puis, surtout, nous, on est quand même les plus jeunes de l'équipe. Et donc, au final, la direction de l'équipe essaie de nous préserver un peu. La última pregunta. En vuestro jersey hay Movistar apuntado. Sí. ¿Qué puede representar para ti el jersey que llevan Quintana, Valverde? Sur votre maillot, on voit le logo Movistar. ¿Qué puede representar para vos el maillot Movistar de Valverde y Quintana?
No, eso significa bastante porque yo les he visto a ellos en carrera y no, son muy buenos, entonces tener ese sello en nuestra maillot es muy, muy importante y siempre se trata de representarlo lo mejor que se puede.
Voilà, pour nous, bien évidemment, hein, moi je les ai vus courir quand j'étais petit. Pour moi, porter le sigle Movistar sur le maillot, c'est extraordinaire et c'est un honneur même de porter ce logo. Gracias por quedarte con nosotros. Te vamos a dejar ir a cenar ahora y nos vemos mañana y después de mañana.
Y mañana adelante la carrera mañana, ¿eh?
Ya, listo. Muchas gracias.
Dale.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias, Esteban. Esteban Villarreal, donc
tu peux rester avec nous, François,
du team Équateur, qui a partagé eh bien, cette émission avec nous. Ouais, je vois qu'il est applaudi par les copains. Il y avait aussi un anniversaire qui se fêtait il y a quelques minutes. Julien, quelles sont les équipes alors qui sont avec nous dans ce grand réfectoire?
On les a cités. Donc il y a le CR4C, la formation Euskadi, il y a le top 16 et la formation Équateur. Quatre formations. Le reste des formations sont logées. Donc le reste des formations sont logées à Ozat, si je me trompe pas, un peu plus loin. Et après il y a Saint-Girons aussi un petit peu éparpillé. Donc demain on va se retrouver sur un départ. Oui, Nicolas.
Oui, on fait un coucou aussi à nos amis de Direct Vélo qui sont dans leurs 4 étoiles. Hein,
on leur fait un petit coucou,
bien sûr, à Pierre et puis à Nicolas qui est avec lui le speaker officiel de la Ronde de l'Isard. Pierre avec qui on a plaisir de suivre à chaque fois les épreuves et particulièrement la Ronde de l'Isard. Pierre Carré qui est avec nous ces dernières années pour les directs. Là, c'est le timing qui a rendu ce direct impossible, mais il y aura plein d'autres moments d'échange. bien évidemment, et on tient à tirer un gros coup de chapeau à Direct Vélo qui permet à tous les passionnés de cyclisme de suivre eh bien, la ronde de l'Isard à fond la caisse. Il y en a toujours
il
y a de plus en plus.
7 minutes avant de conclure l'émission.
C'est les 7 dernières minutes. Je voulais mettre à contribution nos auditeurs qui ont été nombreux à réagir. S'ils ont des questions ou des commentaires après ces deux premiers jours de ronde de l'Isard, @radiovélo31, Aubin, spécialisé réseaux sociaux, est avec nous pour lire. Bien évidemment, vous lisez aussi ces articles sur le blog des jeunes journalistes. François-Xavier, est-ce que tu as une question toi à nous poser peut-être sur la suite de la ronde de l'Isard, Julien?
Non, mais tout à l'heure on se chamaillait, mais bon, on disait ouais, moi je trouve que lui est plus fort que lui, ouais, mais moi je trouve que lui est
comme
plus fort
des enfants.
Lui. Ouais, comme des enfants, parce que chacun on a vu les coureurs un petit peu enfin les a vus différents avec un œil différent. Donc voilà, c'est vrai que de plus ça fait un très gros effort dans cette ascension du plateau de Beille avec cette crevaison qui l'a pénalisé. Et c'est vrai qu'à juste titre, là, François a raison, s'il n'avait pas eu cette crevaison là, peut-être que les efforts qu'il a fait pour rentrer, il aurait pu après quelques attaques grappiller un petit peu de temps sur Petit. Maintenant bon, la course elle est comme ça, il reste deux jours de course qui seront des plus passionnants. L'étape de demain, François, va être quand même très particulière, avec beaucoup de répétitions, comme on disait tout à l'heure, beaucoup de tape-cul, de côtes, avec sûrement du vent de travers. Et bon, il y a des écarts qui sont très faibles pour l'instant, c'est rien n'est fait.
En fait, si j'étais coureur, moi, ça me ferait peur, là, l'étape de demain.
Exactement, oui.
Parce qu'en fait, on a bien compris, on est sur la course référence des grimpeurs à l'échelon mondial, ou en tout cas européen. Et on va dire que dimanche, on sait que ça sera le combat des chefs. Sauf que demain, je trouve qu'il y a quand même deux garçons qui peuvent venir faire les gros arbitres quand même. Est-ce que Jérémy Maison n'est pas en train de construire la victoire du CC Étupes ? Alors, évidemment, le jeu de mots était facile, mais sauf qu'il nous a quand même montré aujourd'hui quelque chose d'énorme. Et quelque chose d'énorme même avec un équipier à lui qui était la référence quand même. Et donc on peut jauger la performance de Jérémy sur celle par rapport à De Plus et par rapport à Petit, mais aussi par rapport à Guillaume Martin. Et puis après, ce Lucas Papillon, qui vraisemblablement ce matin ne s'était pas levé avec un objectif d'aller chercher des places, puisqu'il s'est mis dans presque l'échappée. Enfin moi, personnellement, ce que j'appelais presque l'échappée suicide, hein, parce que faire Sambourne aujourd'hui devant, c'était quasiment certain que la marche arrière allait être enclenchée par les coureurs au pied de Beille. Et ce garçon quand même, il a fait quand même une très 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 grosse partie de l'étape avec 9 coureurs autour de lui juste. Ça veut dire qu'il était dans l'échappée et il va quand même nous gagner 3 places au général au final. Et si je me souviens bien, il avait son coéquipier Sauvage qui n'était pas bien loin non plus le premier jour. Ça veut dire que est-ce que ce maillot jaune là du CR4C, est-ce que demain sur une étape particulièrement piégeuse, on va pas le voir.
Bah, c'est ce que nous disait tout à l'heure, et je pense qu'il nous l'a un petit peu glissé aussi. Ils vont faire la course. Hein. Je crois que demain, il y en a beaucoup qui peuvent perdre la ronde de l'Isard, il y en a beaucoup qui peuvent la gagner, et notamment eux. Hein, le CR4C sont passés un petit peu à côté pour l'instant. Le Vendée-U, c'est pareil, le Vendée-U sont passés aussi à côté, malgré leur coup de bordure qu'ils ont fait sur l'étape d'hier, avec 5 coureurs aux avant-postes dans ce groupe-là, et puis finalement pas les concrétiser. Je pense que demain, il va falloir Chambéry, c'est. Oui, pareil, même si Aurélien paraît peintré là aussi, mais, ouais, ça manque de conclusion, ouais. Ça manque de.
Et ça veut dire qu'en plus, donc en face, on a deux grosses équipes qui ont su prendre leurs responsabilités, hein, les Italiens et les Belges.
Ah,
donc,
mais ils ont pris parfaitement, les Italiens, ils ont maîtrisé la course. Voilà,
mais ils ont pris leurs responsabilités sur des étapes qui étaient presque. Alors, je ne vais pas dire cousu de fil blanc, parce que c'est jamais cousu de fil blanc le cyclisme, mais où on avait un objectif particulier, c'était d'arriver au pied de Beille avec un tempo, avec un écart pas excessif.
Comme des pros.
Exactement, comme des pros, sans oreillette, s'il vous plaît. Donc, ce qui veut dire. Et contrairement à ce qui se dit, ils n'ont pas été en danger dans les ronds-points, ils n'ont pas eu peur dans les. J'exagère, mais bon, allez, disons ça. Mais en tout cas, deux grosses équipes qui sont formatées pour faire une étape destinée à amener un grimpeur à un endroit précis. Demain, on n'est pas du tout dans ce profil-là. Demain, on n'est pas du tout dans ce profil-là. Donc attention, moi je serai coureur, j'aurai peur demain.
Alors, qui va gagner à Ronde de l'Isard? Allez, on se lance pour terminer cette émission. C'est difficile de donner un nom. Moi, je vous en donne un parce que c'est le même depuis l'arrivée d'hier, depuis le premier jour. Je vais miser sur le coureur belge, sur Laurens De Plus de l'équipe Lotto Soudal, qui pour moi est le coureur le plus complet de cette Ronde de l'Isard. Même si je pensais qu'il ferait la différence aujourd'hui, donc je prends des risques.
Ah, moi je serais plutôt partisan de t'emboîter le pas, hein. Laurens De Plus, parce que je trouve que il a un niveau. Alors on va pas repartir sur le débat qu'on a eu avec Julien tout à l'heure au sommet de veille, hein. Mais je trouve qu'il a quelque chose, et puis je pense qu'à ce quelque chose c'est rajouter quelque chose qui fera peut-être la différence dimanche. C'est qu'il a eu une faim, mais il est mort de faim là depuis aujourd'hui. Parce que cette crevaison, même si elle n'a pas influé sur son classement, ouais, elle lui est restée en travers, mais moralement, mais incroyable. J'étais avec lui derrière sur le podium. Et c'est ce qu'il a retenu de l'étape, lui. Ouais. Il n'a pas retenu sa deuxième étape, sa deuxième place.
Est-ce qu'un Italien va gagner la Ronde de l'Isard? Ce serait une première dans l'histoire de l'épreuve.
Eh bien, moi, je le vois bien remporter, cette ronde, parce qu'il a une équipe formidable qui a bien travaillé aujourd'hui. Peut-être que demain, ça va être difficile, mais il a vraiment des coéquipiers aujourd'hui. Il a vraiment du monde avec lui. Moi, je crois que c'est bien parti.
Aubin,
Moi, je miserais plus sur De Plus. Du coup,
plus de plus,
voilà,
ça fait plus. Ça fait 3 plus, du coup, vu qu'on est 3 à miser sur lui.
Qui me semble avoir une meilleure équipe que l'italien. Mais après, voilà, on peut espérer une petite victoire française avec ces deux coureurs du CC. Tu peux placer.
Parce que j'allais dire à Radio Vélo, les mecs sont pas chauvins, quoi.
Attends, les Italiens aujourd'hui, ils ont roulé toute la journée. Et c'est eux qui ont maintenu l'écart à une minute. Donc aujourd'hui, ils ont sacrément bossé comme des pros. On verra demain comment ça va se passer.
Allez, Italie peut être fratricide, pardon, et peut profiter aux Français. Donc,
allez, bon, voilà, les paris sont ouverts. Un polo direct vélo sur la table à celui qui gagne.
Direct vélo, faudra leur demander, mais radio vélo, oui, tu comprends toujours. Que c'est
Bon, messieurs, l'heure est déjà passée.
Merci d'avoir été aussi nombreux à nous suivre. Le podcast dès la fin de soirée sur le site radiovélo.fr et sur CETA Radio. Vous pouvez le réécouter à la maison, sur le vélo. Bon, pas demain pendant la course parce qu'il faut être concentré. Mais ce fut un plaisir et on se retrouve très bientôt.
Tous nos intervenants, on remercie les gîtes et les hostalous qui nous ont accueillis ce soir.
Aux cabanes.
Et voilà, donc on a fait une bonne émission. On se retrouve demain, moi, encore deux étapes, on va se régaler.
Merci François-Xavier d'avoir été avec nous. Merci Aubin pour ce que tu fais pour nous sur la Ronde de l'Isard. Et puis, merci à Laurent du côté de la technique. Merci Julien.
Merci beaucoup. Merci,
ciao.
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 Retourne.